Bonjour, chers amis auditeurs. Alors, nous retrouvons toujours et avec grand plaisir Marie-Madeleine Rey. Bonjour Marie-Madeleine.
Bonjour Martine.
Bonjour à tous. Nous avons le temps d'une cathédrale et nous sommes bien sûr dans la cathédrale de Cahors pour cette visite guidée thématique. Et nous sommes actuellement dans la chapelle Saint-Martin que nous allons terminer. Alors, chapelle Saint-Martin, Marie-Madeleine, nous avions parlé des peintures représentant les évêques. Nous avons parlé des différents tableaux qui se trouvent, mais nous avions terminé la semaine dernière par le tableau représentant Bienheureux Alain de Solmignac, avec cette douceur au niveau du visage. Mais il y a un autre portrait très important également, très important par rapport à la Sainte Coiffe.
Voilà, alors c'est le portrait du Seigneur d'Adine de Haute-Serre, qui en 1580, lors de l'invasion des Huguenots, avec à leur tête le futur roi Henri IV, ce brave seigneur de Haute-Serre, étant catholique, a été emprisonné rue du Château du Roi, évidemment, le pillage de la cathédrale a entraîné la perte de la Sainte Coiffe. Le voleur de la Sainte Coiffe a sorti la Sainte Coiffe de son reliquaire et il a emporté le reliquaire. Mmh. Et une brave femme dans la rue a vu ce geste et a récupéré la Sainte Coiffe et l'a ramenée aux gens du Seigneur d'Adine de Haute-Serre. Seulement, comme il était emprisonné, il a fallu aller lui rendre visite pour demander ses ordres. Mm-hmm. Et savoir ce qu'on en faisait de cette relique. Et le Seigneur a dit, mais il faut la ramener, il faut l'amener à l'usage. Alors elle a fait tout un circuit, paraît-il, tout un circuit par l'Albinque, pour arriver à l'usage. Bon. Mais entre-temps, le Seigneur s'est échappé. Mm-hmm. Le Seigneur a pu s'échapper de la prison et remettre donc la Sainte Coiffe à la cathédrale de Cahors une fois les avanies huguenotes terminées. Hein, voilà. Donc, il est représenté là dans ce tableau tenant la Sainte Coiffe à la main. Voilà. Et on ne peut pas se tromper puisqu'il est marqué d'Adine, seigneur d'Haute-Serre, voilà, vivait en 1580 et conserva le Saint-Suaire. Voilà.
Tout à fait. Et donc, nous continuons dans cette chapelle. Il y a d'autres éléments dans cette chapelle.
Oui. Alors, il y a pas mal de reliquaires, mm-hmm. De bustes reliquaires. Mm-hmm. Évidemment, pour terminer, on va finir par la crosse de Monseigneur Camiade, qui est bonne place.
Très belle d'ailleurs, très belle crosse.
Dans la cathédrale, enfin dans la chapelle, qui est représentée donc, enfin qui représente la Vierge de Rocamadour. La Vierge de Rocamadour, et qui est probablement en argent, hein, je pense. Et voilà, sur une hampe de bois. Voilà. Très belle crosse.
Très bien, donc nous en avons terminé avec la chapelle Saint-Martin. Nous précisons que la chapelle Saint-Martin n'est pas ouverte au public.
Non.
Elle est peut-être ouverte exceptionnellement lors des portes ouvertes monuments historiques.
Possible.
Mais je dis bien de façon exceptionnelle.
Voilà.
Donc nous sortons de la chapelle Saint-Martin pour nous rendre sur notre gauche et nous rendons dans le cloître de la cathédrale. Mais avant de parler du cloître, nous allons parler de la fameuse chapelle Saint-Gosbert.
Voilà.
Puisque nous avons accès à la chapelle Saint-Gosbert à partir du cloître.
Voilà, et nous terminerons les chapelles par cette chapelle.
Voilà. Voilà.
Alors, cette chapelle Saint-Gosbert a été bâtie également en même temps que le cloître, hein, puisqu'elle servait de salle capitulaire. Mais cette chapelle est fermée au public depuis longtemps, hélas, car elle renferme un trésor. Voilà. Alors, nous allons pénétrer dans cette chapelle Saint-Gosbert. Auparavant, qui était Saint-Gosbert? Saint-Gosbert était un évêque de Cahors dans les années 900, 950. Il serait mort en 950. C'est un homme de science, mais un homme aussi de prière. Et il a été qualifié de père des pauvres dans notre diocèse. Et finalement, le conseiller des princes de cette époque. Voilà. Ouais. Donc il était polyvalent, si j'ose dire, hein. À la fois proche des pauvres et pauvre des riches, hein. Voilà. Et près des riches. Donc voilà. C'était un homme complet, si on ose dire, puisque science et prière, hein, c'était vraiment un humaniste avant l'heure. Alors, la chapelle Saint-Gosbert se compose de deux parties, si on veut, si on peut dire, donc de deux travées pour la voûte. Et le joyau principal, c'est le Jugement dernier. Le Jugement dernier, donc, ce sont des peintures qui sont datées de entre 1494 et 1502. Et qui sont pour l'époque très bien conservés. Alors, le Jugement dernier, on va le détailler. Alors, si vous voulez, quand vous regardez le côté ouest de cette chapelle, c'est-à-dire vers le cloître, le côté du mur du cloître, vous avez deux parties, donc deux travées. À gauche, le Jugement dernier, et à droite, ce que l'on appelle l'enfer glacé. Alors, on va détailler tout ça, hein, parce que ça le mérite. Alors, le Jugement dernier, comme tout jugement, c'est Jésus qui préside à ce jugement. Donc, il trône sur un arc-en-ciel. Il est assis sur l'arc-en-ciel. Il est assis donc dans un espace en forme d'amande, hein, ce qu'on appelle une mandorle. On l'a déjà vu pour le tympan. Et il est entouré de part et d'autre d'anges musiciens qui ont de très longues trompettes.
Ah, voilà, oui, effectivement.
Qui plongent vers la terre. Et aussi caractéristique de cette époque-là, du début du XVIe siècle, Jésus est entouré du soleil et de la lune. Voilà, il préside au jour et à la nuit. Dieu a créé le jour, la nuit, voilà. Donc, c'est un peu aussi l'analogie avec l'alpha et l'oméga, le début et la fin, hein, voilà. Alors, en dessous de Jésus se trouve le personnage de Saint-Michel. Alors Saint-Michel, qui préside à la pesée des âmes, est habillé curieusement.
Oui, moi je dirais une jupe noire.
Voilà, courte. Parce qu'on dirait une jeune fille qui part au tennis.
Mais absolument, hein, voilà. C'est ça. C'était exactement la remarque que j'étais en train de me faire avant que vous en parliez.
Parce que son visage est assez féminin, entouré de cheveux blonds. Il a un corsage blanc. Et il tient dans sa main gauche la fameuse balance. Et dans la main droite, il tient une colombe. Alors, il est donc vêtu d'une jupette, je qualifierais ça de jupette grise, à plis, à petits plis, courte. Et donc, on voit ses jambes. On voit ses jambes au-dessus des genoux, voilà. Alors, il préside à la pesée des âmes. C'est ça qui est intéressant. C'est que la balance est composée d'un fléau, avec deux petits godets de part et d'autre. Et dans un premier godet à gauche, on voit une âme représentée par un petit corps féminin, blond, en prière, à genoux en prière dans le godet, si j'ose dire. Voilà. Mais à droite, un autre personnage féminin. Alors, pourquoi féminin pour des âmes? Enfin, je...
Voilà, Marie-Madeleine, c'est vous là. Posez les questions que je
voilà,
me pose.
Voilà, c'est là. C'est comme ça qu'on représentait les âmes. Et par contre, celle de droite, elle est tourmentée parce que elle tient pas en place. Elle est prisonnière de ce godet, manifestement. Elle tend le bras droit vers la droite, donc vers l'enfer. Et sa main gauche tient ses cheveux, échevelés, elle est échevelée, elle est vraiment dans tous ses états, et elle regarde Saint-Michel d'un air de dire « Mais quand vas-tu me lâcher ? Quand vas-tu me libérer ?» Or, elle va aller en enfer. Mmh. Et alors, en dessous de Saint-Michel se trouve une chose immonde. Mmh, une oui. chose immonde.
Une bête.
Alors, c'est une bête. Une bête à écailles, avec des pieds fourchus, mais alors d'aigle, hein, des serres d'aigle, et une tête inqualifiable avec des cornes. On ne sait pas ce que c'est. Cette tête, c'est vraiment ça n'existe pas dans la nature, disons. Hein, voilà. Mais couvert d'écailles. Alors évidemment, c'est le démon. C'est le démon qui est allongé. Prisonnier des pieds de Saint-Michel et qui a les jambes, il a les jambes fléchies parce qu'il doit quand même au moins sentir des chatouilles ou un poids quand même hein, sur son corps. Enfin, en tout cas, il ne peut pas se relever. Par contre, il use de ruses comme par hasard. Dans sa main gauche, il tient une tige en fer crochue. Et qui tente de rabaisser le godet où se trouve la bonne âme.
Et oui, où se trouve la...
Pour rééquilibrer les choses.
La personne féminine, donc
voilà,
qui est en...
Voilà, l'âme de gauche
qui, est en
qui, va aller, qui va aller au ciel. Hein. Eh bien, il essaie avec cette tige fourchue de la rabaisser pour la, au moins la rééquilibrer avec l'âme échevelée qui va partir en enfer. Et qu'il essaie de relever de sa main droite. Alors voilà la malignité du démon hein, qui essaie de tromper par cette manœuvre, qui essaie de tromper Saint-Michel. Mais Saint-Michel ne se laissera pas tromper, bien entendu. Alors, en dehors de ces trois personnages principaux, disons, mais les autres sont très importants également, nous remontons légèrement autour du Christ, car en dessous des anges, nous trouvons à gauche la Vierge et à droite Saint Jean-Baptiste. Voilà, Saint Jean-Baptiste avec sa peau de bête, qui a les mains croisées sur sa poitrine et qui regarde le Christ. La Vierge à gauche, qui elle aussi est en prière, mais elle a la main droite sur le cœur, mais de la main gauche, elle montre la terre en regardant Jésus. Et probablement en le suppliant de sauver la plupart des gens, hein, la plupart des âmes. Voilà. Alors.
Et d'ailleurs, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste sont agenouillés.
Oui, ils sont agenouillés. Alors, ceci, c'est la partie du ciel. La partie du ciel, donc on trouve Jésus, les anges, Marie et Saint Jean-Baptiste. Et le lien se fait par Saint-Michel, le lien avec la terre se fait avec Saint-Michel, qui est à cheval sur les deux.
Et qui est debout.
À la peinture, et qui est debout. Hein? Voilà. Alors, la terre, en bas, la terre, eh bien, se compose des tombes. Des tombes des ressuscités, qui sortent de leur tombeau. Et ils ont une caractéristique particulière, c'est qu'ils ont un livre sur la poitrine. Ils ont un livre sur la poitrine, ce sont les livres de leur vie.
D'accord.
Qui va faire que ils vont être sauvés et aller au paradis. À droite, par contre, à droite, il y a aussi des ressuscités avec des livres. Mais vu la tête qu'ils auront, c'est plutôt du côté de l'enfer qu'ils vont aller. Hein, voilà. Et alors, à droite, nous avons un superbe ange qui est sous les ordres de Saint-Michel. Mais un superbe ange avec des ailes colorées. Il est armé, il a une armure. Hein, et il brandit un bouclier à gauche et une épée à droite, qu'il faut un peu deviner. Hein, mais enfin, elle y est. Et là, il chasse. Il chasse vers l'enfer deux personnages, l'un qui porte l'autre. c'est-à-dire un démon qui porte sur son dos une âme, donc un corps nu, hein, et qui vont s'engouffrer dans ce que l'on appelle la bouche du Léviathan, c'est-à-dire du démon, de Satan et de l'enfer. C'est la bouche de l'enfer. Avec des narines, enfin il a des crocs, enfin cette bouche a des crocs et des narines puissantes, hein, vers le haut, voilà. Alors, dernier détail, si on peut dire, en bas tout à fait, au premier plan, nous avons un autre ange, mais lui il n'est pas armé, il n'est pas vêtu d'une armure, il a simplement une robe à galons noirs, une robe blanche à galons noirs. Eh bien lui, il sort des os humains, des tombes, pour pouvoir les faire ressusciter. Voilà, c'est le symbole de la résurrection. Alors, on voit tout un corps, hein, un squelette, disons, avec la tête, le livre de sa vie également. Et là, je pense que Saint-Michel va choisir soit de le mettre au paradis, soit de le mettre en enfer. Voilà. Alors, c'est très puissant comme peinture. Hein, c'est vraiment le joyau de la cathédrale de Cahors. Hein. Bon, évidemment, il y a la sainte relique de la sainte coiffe, mais il y a aussi ce joyau, à mon sens, qui mérite d'être mieux connu.
Avant de continuer dans cette chapelle, et notamment l'enfer glacé dont vous parliez tout à l'heure, on peut comprendre effectivement que les bâtiments de France ne laissent pas forcément cette chapelle ouverte pour éviter qu'il y ait des dégradations.
Voilà,
j'imagine.
Alors, non seulement des dégradations, mais aussi le fait qu'il y ait trop de monde qui rentre dans cette chapelle et qui, par le gaz carbonique, abîme les peintures.
Des variations au niveau
voilà,
de l'air.
Voilà. Mais, bonne nouvelle, cette chapelle va être réouverte au culte. Donc,
intéressant.
Voilà.
Effectivement.
Voilà.
Intéressant, d'autant qu'elle est ouverte, elle est ouverte, contrairement à la chapelle Saint-Martin, elle est ouverte lors des portes ouvertes monuments historiques.
Oui, absolument. Absolument.
Donc, au niveau de cette peinture
voilà.
Magnifique,
donc voilà le jugement dernier. Alors, on va passer à l'enfer glacé. On va passer à l'enfer glacé. Et là, donc, c'est assez dans la même note, hein, et je pense que c'est possible que ce ne soit pas terminé, que ce soit une peinture non terminée. Et c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfer glacé, mais je vais vous expliquer pourquoi, voilà. Alors, donc c'est dans le mur toujours qui donne sur le cloître, qui est au-dessus de la porte d'entrée.
La porte d'entrée de la chapelle.
Voilà, alors c'est l'enfer. C'est l'enfer, puisque nous avons sur le jugement dernier la bouche de l'enfer qui est à droite, et donc qui va ouvrir sur cet enfer glacé, hein, voilà. Alors, sur la partie supérieure, en partie effacée, hein, elle est en moins bon état que le jugement dernier, nous avons les supplices de l'enfer, et en particulier le supplice de la roue. C'est-à-dire, on met l'individu sur une roue et on écarte et on tourne en même temps. Mais voilà. Alors on voit le rouet qui est tenu par un démon, le rouet avec la manivelle qui va tourner la roue et faire tourner le corps sur la roue. Voilà. Donc ça, c'était le supplice de la roue. Et alors on voit de nouveau un être immonde à écailles, avec des mains, si on ose dire, des pattes crochues, et qui préside à ces supplices. Il y a probablement à droite encore une roue, hein, voilà, c'est le supplice de la roue. Et en haut, eh bien on voit la tête du démon. On voit la tête du démon avec avec ce corps immonde.
Par rapport à cette haut de cette peinture qui est voilà, on sent qu'il faut effectivement une restauration. On aperçoit vraiment, elle ressort très bien cette.
Oui, oui, cette tête cette ressort tête... avec des petites cornes, oui, oui. Hein, ou des grandes oreilles, une large bouche, un gros nez. Enfin bon, c'est voilà. Et alors en dessous, c'est ce dont on parle, donc l'enfer glacé à gauche, sur la partie gauche. Où l'on voit alors les gourmands, les envieux, les colériques, hein, voilà, qui sont à peine esquissés. Et alors c'est là que je voudrais revenir, parce qu'on dirait en effet qu'ils sortent de la glace, parce que le reste est blanc. Alors on voit des corps qui sortent, dont certains lèvent les bras au ciel, d'autres ne savent pas où ils sont et ils écartent les bras. Enfin, un autre qui se vautre hein, sur l'eau ou sur cette glace. Enfin, c'est très bizarre. Mais il faut savoir que lorsque on prépare une peinture, on esquisse avec un crayon rouge. C'est ce qu'on appelle des sinopies. Des sinopies, de sinope, le rouge, hein, la couleur rouge, voilà. Et à mon sens, c'est possible que ce soit une esquisse du futur travail qu'aurait dû faire l'artiste pour représenter la colère, l'envie, la gourmandise, etc. Hein, voilà. Alors bon, ça c'est très personnel, hein, ce que je dis. Je le soumets, mais ça ressemble beaucoup à des sinopies qu'on voit par exemple dans des châteaux italiens, voilà, ou ailleurs. Préparation de. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle l'enfer glacé, parce que on dirait vraiment qu'ils sortent de la glace, de la neige, de voilà.
Enfin, en tout cas, quelque chose de blanc.
Oui, de blanc. Et alors à droite, c'est très 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 effacé. On aperçoit éventuellement ce qui pourrait être une table, donc ça serait la gourmandise. Et un corps allongé sur cette table, vautré sur cette table, voilà. Mais on peut pas en dire plus, parce que vraiment c'est très effacé. Voilà pour ce qu'on appelle l'enfer glacé.
D'accord, donc il y a ce parallèle entre
le jugement dernier, la bouche de l'enfer, voilà. Et qui amène à cet enfer glacé.
Tout à fait.
C'est une suite en fait.
Tout à fait.
Une bande dessinée.
Je rappelle que la sainte coiffe, puisque nous elle a été quand même un peu notre fil conducteur à partir de la chapelle d'Aix, que la sainte coiffe se trouvait initialement.
Oui,
dans cette chapelle.
Se trouvait là, avec voilà. Dans son reliquaire, dans cette chapelle, puisque cette chapelle renferme le trésor. Le trésor de la cathédrale, enfin, renfermé, parce que maintenant.
Voilà. Cette chapelle a été, on va dire que des voleurs ont essayé de cambrioler et ont d'ailleurs cambriolé quelques objets,
mais n'ont pas eu
le temps de prendre la sainte coiffe,
non.
qui se trouvait jusqu'en 2019 pratiquement à la Banque de France.
Voilà. Donc ce cambriolage, je crois, a eu lieu en 2014. Hein.
En 2015.
Ou en 2015.
Voilà. En juillet 2015.
Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, évidemment, il ne faut pas oublier la voûte. Alors, la voûte, donc sur de travées toujours, bien sûr, est illustrée par les pères de l'Église, c'est-à-dire les pères de l'Église latine, c'est-à-dire saint Augustin, saint Ambroise, saint Grégoire et saint Jérôme. Voilà. Donc avec leurs attributs, et ensuite les attributs des apôtres, des évangélistes, pardon. Les attributs des évangélistes, donc l'ange pour Matthieu, le lion pour Marc, l'aigle, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean.
Voilà, hein, voilà. Donc nous terminerons pour cette fois-ci par les évangélistes. et notamment les attributs des évangélistes. Nous continuerons la semaine prochaine dans cette chapelle Saint-Gosbert, Marie-Madeleine. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci, Marie-Madeleine, que nous retrouverons avec toujours un aussi grand plaisir.
Mais moi de
même. La semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous terminerons la chapelle Saint-Gosbert et surtout nous terminerons cette visite guidée par le cloître, Marie-Madeleine.
Oui.
Avant de terminer vraiment par le côté musical et donc par ce grand orgue et l'orgue de chœur. Merci Marie-Madeleine.
Avec plaisir, au revoir.
Au revoir, à la semaine prochaine.